RFI, grand reportage, Xavier Besson.
Au moment où l'on parle du réchauffement climatique, au moment où l'on prépare la grande conférence à Paris à la fin de l'année, la COP21, la solution pourrait-elle venir d'un arbre ? Un arbre pourrait-il sauver le climat ? Depuis quelques années, des scientifiques s'intéressent en effet au guaïmaro qui stocke le CO2 dans le sol. Un arbre qui pousse dans des écosystèmes tropicaux secs, comme par exemple dans la Sierra Nevada de Santa Marta, en Colombie, une région où une biodiversité exceptionnelle a été mise à mal par la culture de la marijuana, puis de la coca. Et il reste aujourd'hui très peu de guaïmaro, mais aujourd'hui l'arbre connaît un véritable engouement et un scientifique s'inspire des savoirs ancestraux des indigènes de la région. Le guaïmaro, un arbre pour sauver le climat, un grand reportage de Christine Ziebert.
Entonces me dices, comment se dice hola, comment estás?
Así me sale. No sé.
Así me sale.
Cours de langue arawako. Ce sont les enfants qui m'apprennent les mots les plus importants. Bonjour, merci et arbre.
Qu'est-ce important pour vous?
Comme.
Qu'est-ce que quiere decir?
Arbre.
Arbre.
C'est comme.
Comme.
Nous sommes assis sur des pierres à l'ombre d'un grand arbre et tout autour de ce petit village indien, il n'y a que ça, des arbres, bananiers, manguiers, avocatiers. Et plus loin, les arbres de la forêt vierge, arbres au nom exotique, caracoli, mastre, macondo. L'enseignante des enfants, Claudia Viafanestore, elle aussi indienne arawaka, s'approche du groupe pour nous parler de cet arbre que surtout les anciens connaissent, le guaïmaro.
Guaïmaro est un arbre grande, grandissime.
Le guaïmaro est un arbre très grand. Il pousse dans la montagne. Ma mère racontait que ma grand-mère récoltait beaucoup de fruits du guaïmaro. Elle les faisait sécher comme on le fait avec les grains de café. Ensuite, elle les utilisait de différentes manières. Par exemple, elle les cuisinait avec de la viande de chèvre. On les mangeait aussi lors de cérémonies ou de travaux spirituels. C'est la nourriture typique, le guaïmaro nous donne de la force vitale.
Mais on ne trouve plus de guaïmaro aux alentours du village. Claudia était déjà adulte quand elle a mangé pour la première fois ces fruits précieux.
Une de mes nièces a apporté 10 kilos pour une cérémonie. Elle m'en a offert une tasse remplie. J'ai goûté et je me suis dit, ah oui, c'est donc ça le guaïmaro. Mais c'est très bon, j'avais envie d'en manger plus, mais par ici, il n'y en a pas.
Gumaque, c'est le nom indigène, les occidentaux disent Samana Culebra, est un petit village fait de quelques huttes couvertes de feuilles de palmier. Elles entourent un bâtiment rustique, l'école, où le cours de mathématiques vient de commencer. Les enfants viennent souvent d'autres villages, loin de Gumaque. En semaine, ils restent dormir ici. Pour arriver à Gumaque, il faut marcher, longtemps même. La prochaine route carrossable est à 8 heures d'ici. C'est Franz Gaston Flores qui nous a emmenés ici. Ce vétérinaire et spécialiste de la faune sauvage vit dans la Sierra depuis une dizaine d'années. Il était venu pour prouver l'existence du tapir dans la région et pour protéger cet animal menacé d'extinction.
Quand nous avons eu l'énorme plaisir de savoir que cet animal se trouve dans cette forêt, cet animal du Pléistocène est un fossile vivant. C'est l'animal terrestre le plus grand de cette partie du monde. De son nez jusqu'à sa queue, il mesure 2 mètres et 25 centimètres et il pèse un peu plus de 300 kilos. Il est capable de détruire des semences qui existent en surabondance et de disséminer les espèces plus rares. Il joue donc un rôle dans le maintien de l'écosystème. Tant que le tapir est là, tout est là. Mais selon nos estimations, il ne reste qu'une cinquantaine d'animaux. Ici, nous sommes confrontés à un grave problème. La Sierra Nevada de Santa Marta est certes le lieu terrestre avec la plus grande concentration d'espèces animales et végétales endémiques de la planète. Ici, on trouve tous les écosystèmes entre la neige éternelle et la mer. C'est une maquette vivante de la planète. Mais il reste seulement 17% des 12 000 km² que la forêt vierge occupait initialement.
Venu en scientifique, Franz Gaston Flores a partagé la vie quotidienne avec les indigènes. Et ça a changé son regard.
On a commencé ici avec une méthode classique, celle que l'université nous enseigne. Et il m'a fallu 10 ans pour me rendre compte que quelque chose manquait. Nous avons perdu 40% de la biodiversité mondiale au cours des 50 dernières années. Or, c'est justement durant ce demi-siècle que la science de la conservation est née. Ça veut bien dire que cette science ne fonctionne pas comme elle le devrait. Il manque quelque chose.
Les Indiens l'ont initié à ce qu'ils appellent le pagamento, le paiement. Une notion qui n'a rien à voir avec celle du monde occidental où tout se paye avec de l'argent. Ici, l'argent est remplacé par la lucidité.
Pour les indigènes, tout se paie. Ils sont totalement conscients du fait que s'ils veulent bénéficier de la nature, il est nécessaire de payer pour cela, de payer avec la conscience.
Les guides spirituels des Indiens de la Sierra sont les mamos. Ici, à Gumaque, c'est le mamo Manuel.
S'il n'y avait pas la terre, on n'aurait ni nourriture ni eau. Nous ne pourrions pas vivre, mais comme la terre existe, nous avons un chez nous, nous avons de l'eau et de la nourriture. C'est pour cela que nous sommes vivants, c'est pour cela que nous devons payer.
Pour Pedro Hernandez, le mari de Claudia, lui aussi professeur dans le village, c'est le manque de cette forme de conscience qui détruit la planète.
Pourquoi ahora ya casi no llueve?
Pourquoi il ne pleut quasiment pas de nos jours? Pourquoi fait-il si chaud? Aujourd'hui, tout le monde parle du réchauffement global de la planète, mais c'est de notre faute. C'est logique que la Terre-mère ne puisse pas continuer à donner. Nous devons lui payer ce qu'elle nous donne. Et ce paiement se fait à travers la spiritualité. Pour nous, les indigènes, tout se paie ainsi.
Nosotros, como indígenas, el pagamento es para todo.
Les adieux se font accompagner des cris assourdissants des cigales. Et nous voilà repartis à la recherche du Guaymaro. Cet arbre emblématique joue depuis quelques années un rôle grandissant pour Franz Castanflores et la fondation Nativa qu'il a créée. Le Guaymaro est capable de nourrir les habitants de la forêt, du tapir à l'homme, tout en s'adaptant au changement climatique.
La racine de Guaymaro a cette particularité, elle est pivotante. Elle pousse jusqu'aux profondeurs de la terre pour chercher l'humidité. Si l'été est donc intense, chaud et sec, cet arbre peut résister. Même s'il prend feu et brûle, eh bien il repousse.
Et enfin, le Guaymaro a une capacité rare et essentielle pour la lutte contre le changement climatique, celle de pouvoir séquestrer le carbone atmosphérique.
Il a cette caractéristique exceptionnelle de pouvoir capter le CO2 de l'atmosphère et de le piéger à l'aide des micro-organismes de ses racines. Autrement dit, il ne stocke pas le carbone dans son corps, mais dans la terre. Par conséquent, le carbone qu'il a attrapé ne se libérera plus dans l'atmosphère. Cet arbre contribue donc à nettoyer l'atmosphère du CO2.
Este árbol también ayuda a limpiar la atmósfera del CO2.
La Fondation Nativa est impliquée dans plusieurs projets pour ressemer le Guaymaro. C'est urgent. Notre exploration de cette forêt tropicale le confirme. Il n'y a aucun Guaymaro par ici.
On peut carrément les compter, ces quelques grands Guaymaro qui restent. C'est parce qu'il est trop convoité. C'est un arbre qui devient très grand, vous savez, qui a un bois de très bonne qualité et qui pousse tout droit. Il est donc très apprécié pour les meubles. Voilà, ils ont quasiment exterminé le Guaymaro.
Nous croisons des jeunes indiens Kogi qui installent un tube pour transporter l'eau de la rivière. Le jour avance et il fait de plus en plus chaud.
Ça fait plus ou moins un an que je ne suis pas venu par ici et chaque fois, la forêt est plus détruite et on sent davantage le soleil et la chaleur. Avant, sur presque tout le chemin, tu étais protégé par les arbres. Aujourd'hui, il y a des prairies de vaches à la place. Ce que les plantations de coca n'ont pu détruire, les vaches le font. Il faut alerter les paysans. Il faudrait leur dire, dans 20 ans, il ne faut plus qu'il y ait une vache par ici. Commençons à remplacer les vaches par des arbres. On va vous aider à les semer aujourd'hui. Et quand il n'y aura plus de vaches, le Guaymaro sera grand. Ce serait une idée, non ?
Quand les vaches se vayan, le Guaymaro est grand. C'est une idée, non ?
Pour l'instant, la Fondation Nativa travaille surtout avec les Indiens de la communauté Kogi pour replanter le Guaymaro. Juan Nuevita, un Indien Kogi, nous rejoint dans notre exploration. Et nous nous trouvons enfin face à un Guaymaro, un arbre majestueux, haut d'une trentaine de mètres. Des lianes pendent autour de l'énorme tronc comme des cheveux ébouriffés. Tout en haut, ces petites feuilles laissent filtrer un peu de lumière.
Cet arbre est donc un Guaymaro. Avec le climat qu'on a maintenant, il ne pleut quasiment pas, le Guaymaro pousse tout de même. Et c'est pour ça que nous voulons le semer. Avec ce climat, il est difficile de cultiver quoi que ce soit, ça ne donne rien. Or, le Guaymaro peut nourrir tout le monde, nous-mêmes et les animaux de la montagne.
Le Guaymaro comme premier élément d'un cercle vertueux, puisqu'il équilibre également les sols, précise Franz Gaston Flores.
Les sols de Colombie sont acides, ce qui empêche la formation des micro-organismes qui équilibrent le sol. En déposant le carbone, le Guaymaro aide à enrichir le sol. Ce qui est intéressant, cet arbre constitue une solution qui n'est pas nouvelle. Dans le passé, les habitants de la Sierra Nevada avaient résisté justement grâce au Guaymaro. Mais ensuite, les cultures illicites sont apparues. L'argent a circulé en abondance et les fruits du bois ont été dévalorisés. Il était considéré comme de la nourriture pour animaux. Pour sentir leur dignité humaine, les gens allaient au supermarché pour s'acheter à manger. Mais cette époque de l'argent facile est passée comme un éclair. Ça n'a pas duré. C'est donc maintenant le moment propice pour s'inspirer à nouveau des leçons du passé, afin d'affronter le présent, puisque les anciens se souviennent de cet arbre avec nostalgie.
Porque los que hoy están de edad avanzada son los que recuerdan con nostalgia a este árbol.
Au bout d'une longue marche, nous arrivons au village Kogi La Muralla, quelques huttes au milieu de la forêt. Des femmes sont assises sur des pierres, elles découpent du manioc. Les enfants jouent dans l'herbe. Le chef spirituel de ce village, le Mamo Pedro, nous parle lui aussi du Guaymaro.
La nouvelle génération ne connaît pas le Guaymaro. Quand je suis arrivé ici, il y a 10 ans, j'ai entendu qu'avant il y avait des Guaymaro. Mais quand je suis arrivé ici, il n'y en avait déjà plus. Il faut les semer à nouveau.
Ce sera fait. Juan Nuevita désigne une pente aux abords du village envahie d'arbustes.
D'abord, on va débroussailler, puis après, on va semer le Guaymaro. Et en même temps, du maïs, des haricots rouges, et puis du piment, et aussi des bananes, des avocatiers, des orangers, des citronniers. Donc, si le Guaymaro ne produit pas tout de suite, on peut en attendant récolter des avocats et tout le reste. Mais on commence par semer le maïs et les haricots.
Retour à ce qui est convenu d'appeler la civilisation. Le village de Palomino s'étend en bas de la montagne entre la route côtière et le bord de mer. Ici se trouve la maison de Carlos Fernández Rueda, que tout le monde appelle Cayo. Il est l'un des premiers paysans écologistes de Colombie.
Je sème des arbres depuis 30 ans et j'ai eu l'idée de ce que j'appelle la ligne verte. Il faut reboiser en commençant par le fleuve Ancho, el río Ancho, et en passant par toute la Sierra. Dans 20, 30, 40 ou 50 ans, on verra si on a réussi. Pour l'instant, pour ma part, j'ai commencé à semer.
Il a commencé à semer à une époque avec Nativa. La fondation a en effet planté des milliers de jeunes Guaymaro sur les rives du Rio Ancho, ce fleuve qui longe les terres de Cayo. Terre où, là aussi, ils cultivent l'arbre fétiche. Une jeune femme passe devant nous, c'est une étudiante en biologie qui écrit sa thèse sur les usages traditionnels du Guaymaro, explique Cayo. Quelques instants plus tard, nous sommes assises dans le patio de Monica Flores. Elle ouvre son sac, sort son ordinateur portable et me montre les photos qu'elle a prises.
Je crois que je suis la première qui fait une étude scientifique sur le Guaymaro. En Colombie, il n'existe aucun rapport scientifique sur les usages de cet arbre. Je trouve sa charge historique extrêmement intéressante. En Amérique centrale, c'était l'arbre le plus important dans la culture maya. Je me rendais compte qu'on pouvait trouver des Guaymaro en Colombie et ça m'a impressionné. Dans tout le pays, il n'y a aucune documentation.
La Fondation Nativa a son siège quelques rues plus loin, dans une maison faite de bambou, entourée d'un grand jardin. Franz Gaston Flores, constate la même chose. Il est urgent que les scientifiques s'intéressent au Guaymaro.
Pour l'instant, il n'y a pas de recherche coordonnée sur le Guaymaro. Or, on devrait s'inspirer des connaissances scientifiques pour développer cet arbre, pour obtenir des espèces qui produisent plus de fruits et qui s'adaptent à d'autres altitudes. Il faudrait pour ça faire appel à l'ingénierie forestière et agronome, à la génétique, etc.
Mais elle veut aussi éveiller l'intérêt de tout un chacun. Nativa propose des excursions, des biovisites dans le village Kogi. Les biovisiteurs peuvent alors faire l'expérience qu'il existe une manière de vivre et de voir la vie qui est très différente de la vision occidentale.
On aimerait d'une part donner la possibilité aux biovisiteurs de sentir l'urgence qui règne ici. Énormément d'espèces sont menacées d'extinction. Au niveau mondial, la Sierra Nevada est en deuxième place sur la liste des lieux ainsi menacés. Ici, on peut donc se rendre compte de l'impact de la culture occidentale. D'autre part, ils peuvent confronter cette culture occidentale à celle des indigènes de la Sierra. Pour eux, il n'y a pas l'homme d'un côté et la nature de l'autre, non. L'homme est nature, c'est une seule entité. Si nous nous souvenons de ça, nous pouvons peut-être grandir en quelque sorte, prendre conscience que nous sommes des êtres qui partagent cette planète avec beaucoup d'autres.
Et alors, le climat, l'homme et le tapir pourront peut-être s'en sortir. Un grand merci à tous les participants. Le Guaymaro, un arbre pour sauver le climat. Un reportage de Christine Siebert, réalisation Suel Kedir.
Christine Siebert, bonjour.
Bonjour.
La conclusion, l'une des conclusions de votre reportage, c'est qu'il faut s'inspirer de la spiritualité des Indiens Kogi et Arhuaco pour changer d'attitude envers la planète. Qu'est-ce que cela signifie?
Alors, prenons le pagamento, le paiement, il en est question dans le reportage. À première vue, on a l'impression de connaître, puisque dans la culture occidentale, tout se paye, mais en réalité, c'est aux antipodes, parce que payer avec de l'argent, c'est très souvent désastreux. Celui qui a trop d'argent peut détruire l'environnement sans se gêner, il ne le sent même pas dans son porte-monnaie. Il paye donc sans en avoir conscience, et c'est là toute la différence. Les Indiens payent, eux, avec la conscience. Chaque fois qu'ils prennent quelque chose à la terre-mère, comme ils disent, ils lui rendent aussi quelque chose d'ordre spirituel. Ça peut être matérialisé par un tribut symbolique, mais en tout cas, c'est une sorte de méditation. Pour les Indiens, la terre est vraiment comme une mère et normalement, personne veut dépouiller sa mère. On essaie plutôt de lui prendre seulement ce qui est nécessaire, pas plus. Et là, on arrive à la deuxième notion, la sobriété. Ne pas accumuler l'inutile et le superflu. Alors là, dans nos sociétés de consommation, nous faisons évidemment tout le contraire. Donc une visite dans un village indien permet de se rappeler qu'en réalité, il nous faut très peu d'objets matériels pour vivre.
Et il y a, Christine, aussi d'autres notions.
Il y a aussi la équanimidad. La traduction française serait l'égalité d'humeur, donc une certaine sérénité, le fait de garder une certaine mesure aussi concernant les émotions.
En tout cas, Christine, selon les protagonistes de votre reportage, il faudrait que tout le monde s'approprie ces sagesses et cette façon de vivre pour sauver la planète et nous sauver nous-mêmes. La science joue un certain rôle, mais cela ne suffit pas.
C'est exactement ça. Pour que le Guaymaro puisse avoir une influence positive sur le climat, il faut déjà qu'on ne l'abatte pas. Mais le respect de la forêt, de la nature vierge, n'existe qu'à condition d'une vraie prise de conscience. On le voit ici en France. Il y a beaucoup de lois pour protéger l'environnement, mais selon les militants écologistes, elles sont souvent détournées parce que l'appât du gain matériel prévaut. Parce qu'il y a, encore une fois, un manque de conscience. Alors, à ce compte-là, les laboratoires scientifiques peuvent toujours mener leurs recherches. Ce n'est pas ça qui va renverser la tendance.
Mais il mène bel et bien des recherches sur le Guaymaro.
Oui, par exemple, le laboratoire de biogéosciences de l'Université de Lausanne en Suisse s'y intéresse de près. C'est ce labo qui a découvert l'action des arbres oxalogènes, donc des arbres qui piègent le carbone atmosphérique dans le sol, comme le fait le Guaymaro. Alors, ce labo suisse travaille en lien avec plusieurs programmes de recherche, entre autres avec l'association Biomimicry Europe, qui est spécialisée dans le biomimétisme. C'est une science qui s'inspire de la nature pour créer des solutions. Pour l'instant, ces recherches sont en cours. Il faut attendre un peu pour avoir toutes les conclusions. Mais déjà, les scientifiques ne tarissent pas d'éloges sur le Guaymaro. Certains parlent d'un arbre miraculeux.
Merci à Christine Siebert. Un miracle donc et un grand reportage que vous pouvez retrouver sur notre site internet rfi.fr.